Les tritons et les tritones, déités gréco-romaines bienveillantes, ont occupé une place relativement importante dans l'imaginaire gréco-romain. Et on en connaît de multiples représentations, notamment dans un contexte funéraire. Mais à part eux, on ne compte pas d'autres monstres marins anthropomorphes en tant qu'espèces. Les Néréides étant entièrement anthropomorphes, et les sirènes grecques et romaines ayant l'apparence de femmes oiseaux. La situation est très différente dans les mers septentrionales à l'époque médiévale. En effet, cette catégorie d'hybrides y apparaît davantage diversifiée et désormais ambivalente. Sans parler des représentations de monstres anthropomorphes qui se multiplient dans l'illustration des encyclopédies et des compilations zoologiques de la fin du Moyen-Âge, alors que la tradition textuelle les présente sous une toute autre forme. On peut dès lors se demander comment on en est arrivé là. Et c'est à cette question que je vais notamment tenter de répondre. Alors si on se réfère aux sources écrites, principalement les bestiaires, les encyclopédies, les chroniques et les romans en langue vernaculaire, on dénombre 5 catégories de monstra marina, en partie anthropomorphes, spécifiques aux mers du nord de l'Europe. Les moines, les chevaliers et plus tardivement les évêques de mer, auxquels on doit encore ajouter les sirènes, dont la métamorphose en femme poisson est intervenue en milieu germano-celtique. Sans oublier les ondines, qui sont parfois pisciformes et dont l'habitat est marin. La présente communication se propose de présenter d'abord brièvement, bien sûr, cette faune très particulière, de préciser le contexte dans lequel elle s'est développée et d'expliquer les raisons de son extraordinaire succès, tant dans le domaine de l'écrit que dans celui de l'art et même de l'héraldique, dans un cas. On constatera, chemin faisant, que quelles que soient les histoires particulières des hybrides concernés, qu'elles commencent à l'Antiquité ou qu'elles soient ancrées ab initio dans les cultures septentrionales, celles-ci ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration et ou dans l'évolution de leur concept, voire même dans celui de leur forme. Et si vous le voulez bien, on travaillera par catégorie quand c'est possible. C'est ainsi que je ne vous proposerai pas de retracer l'histoire du Zithiron en tant que tel, mais bien de toutes les créatures marines qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué comme lui à l'élaboration mentale d'un chevalier des mers, dont l'existence est localisée et attestée à l'envi dans les mers septentrionales. Il est vrai que le Zithiron a joué un rôle majeur à cet égard, mais il ne fut pas le seul, comme on va le voir. Et d'autres facteurs sont aussi intervenus. En fait, les poissons soldats, annonciateurs des poissons chevaliers, ou chevaliers-poissons, comme vous voulez, sont le plus anciennement évoqués dans le De Naturis Rerum d'Alexandre Neckam, ouvrage de type encyclopédique rédigé vers 1200 en Angleterre, ce qui est déjà significatif de leur lien précoce avec le monde nordique et plus particulièrement insulaire. On y lit en effet, il y a, à ce qu'on rapporte, dans les eaux de la mer, un poisson armé à la façon d'un soldat, piscis armatus in modum militis, sans qu'il soit précisément nommé. Et c'est dans un autre texte anglais, les Otia Imparialia de Gervais de Tillieri, écrit au début du XIIIe siècle, que se trouve la mention la plus ancienne connue de chevalier poisson, ou du moins de monstre marin mis en rapport avec la chevalerie. Ils apparaissent en 3 endroits différents, dans une évocation très large des créatures marines localisées in mare britannico. Il y est question d'un chevalier tout armé qui chevauche sa monture, du dauphin dont le peuple pense qu'il est de la race des chevaliers, ainsi que d'un chevalier arrivant à cheval sur la mer. Cette triple évocation fait en quelque sorte écho aux 3 monstres marins des encyclopédies et de certains bestiaires, qui ont joué, à des degrés divers, un rôle dans la conception des chevaliers marins, à savoir le Monokéris, le Monokéros maris, le Gladius et le Zithiron. En d'autres termes, la licorne de mer, assimilée au narwal, le glaive à l'espadon, et le Zithiron, qui est parfois mis en relation avec le crabe ou la tortue, dont la carapace fournit au départ l'image de la cuirasse. J'ai repris ça de votre très bel ouvrage de Lurtus Sanitatis. Alors, on peut éventuellement y joindre la serra, donc la serre, dont l'une des natures la rapproche du poisson-scie, en tant que variation de l'espadon. Mais quand elle apparaît comme telle, c'est vraisemblablement par contamination avec le gladius. Il n'en reste pas moins qu'elle est parfois figurée ainsi, comme dans la vignette du haut, de cet exemplaire du Livre du Trésor de Brunet latin, copié au début du XIVe siècle en France. Mais en ce qui me concerne, je n'en connais pas d'autres exemples. Son autre nature de poisson volant ayant fait bien davantage l'objet de mise en image. Alors, voyons maintenant comment ces poissons ou monstres marins, décrits comme armés, d'une manière ou d'une autre, se sont progressivement métamorphosés en chevaliers. Commençons par le Monokéros, dit également Monokéron maris, la licorne de mer, qui est à l'évidence une création médiévale. Alors, on en connaît au moins deux représentations monumentales des XIIe et XIIIe siècles. Celle de gauche figure sur un panneau du plafond de bois peint de l'église Saint-Martin de Zilis dans les Grisons. Elle a l'apparence, comme vous le voyez, d'une simple licorne ichthyomorphe, comme l'autre à droite, qui apparaît sur le côté sud du cœur de l'église San Jacopo a Termeno, dans le Trentin, en Italie du Nord. Elle présente la même apparence sur d'autres supports, et notamment dans l'illustration d'un exemplaire tardif du Liber de Natura Rerum de Thomas de Quentin-Pré, conservé à Grenade. Mais il lui arrive également d'être figuré avec des ailes, comme dans l'Hortus Sanitatis. Alors, d'autres fois encore, elle apparaît comme un simple poisson épais, mais dans tous les cas, la grande corne qu'elle a sur le front est bien mise en évidence, comme c'est aussi le cas dans les textes qui décrivent l'animal. Ainsi, Thomas de Quentin-Pré, suivi par les autres grands encyclopédistes du XIIIe siècle et leurs compilateurs, insiste sur sa corne unique et gigantesque dont elle tire son nom, et avec laquelle elle pourrait percer la coque des navires, les faire chavirer et provoquer ainsi la mort des marins, si elle n'était pas, grâce à Dieu, aussi lente. Ce qui permet aux marins de la fuir dès qu'ils la repèrent. À vrai dire, sa nature apathique, qui permet au navire de lui échapper, est le seul trait qui distingue vraiment le Monokéros maris du Gladius xiphias, le glaive, identifié à l'espadon. En effet, ce poisson dont Pline a connu l'existence par l'intermédiaire de Trebius Niger possède un museau pointu dont il se sert comme la licorne de sa corne pour percer les coques des vaisseaux et les couler bas. À croire que le Monokéros maris ne serait qu'un doublet du gladius, comme le suggère aussi le caractère relativement récent du concept de licorne marine. Il faut dire que le nom grec de l'espadon, xiphias, qui fait allusion à sa mâchoire supérieure en forme d'épée, xiphos, le disposait à être confondu avec une licorne. D'autant plus que des auteurs comme Élien avaient comparé son rostre à un éperon de taille énorme. S'inspirant de Pline, Isidore de Séville se contente toutefois d'évoquer un simple museau pointu, qui lui permet néanmoins de percer et de faire sombrer les navires. Thomas de Quentin-Pré, quant à lui, insiste davantage sur la ressemblance de son rostre avec une épée. Ressemblance qui, rappelle-t-il, est d'ailleurs à l'origine de son nom. Sans qu'on en soit surpris, cette morphologie changeante trouve un écho dans l'iconographie. On vient de voir, hein, rappelez-vous, dans le livre du Trésor de Brunet Latin, un gladius armé d'une sorte d'épée, suivant en cela la description de Thomas. Par contre, dans un exemplaire de bestiaire du XIIIe siècle, copié dans le nord de la France, le gladius est seulement muni d'un simple museau, qui semble toutefois d'une redoutable efficacité. Le trou qu'il a pratiqué dans la coque du bateau est bien visible sur la miniature. Enfin, il est doté d'une sorte de rostre en forme de bec d'oiseau, dans l'illustration d'un exemplaire du De Natura Rerum de Thomas de Quentin-Pré, copié sans doute en Île-de-France vers 1290. Et donc, jusqu'ici, notre monstre marin n'a jamais présenté une allure, disons, militaire. Inversement, dans un bestiaire anglais à peu près contemporain, il apparaît véritablement armé d'un bouclier lui protégeant le dos, alors que curieusement, son rostre s'est mué en une sorte de aume lui protégeant la tête. C'est qu'à l'époque d'Albert le Grand, le gladius était déjà communément appelé miles, gladius est piscis, quem nostrates militem vocant, sans doute par contamination avec le zithyrone, comme on va le voir. C'est chez Thomas de Quentin-Pré que le zithyrone est mentionné le plus anciennement. Je vous invite à écouter la description qu'il en a faite en regardant deux miniatures quasi contemporaines qui illustrent à gauche le manuscrit du De Natura Rerum conservé à la bibliothèque municipale de Valenciennes. À droite, un autre exemplaire de cette même encyclopédie, mais comportant la traduction versifiée en moyen néerlandais de Jacob van Marland, donc sous le titre de Zithyrion. Je cite Thomas. Le Zithyron est un monstre marin qui est communément appelé soldat de mer, comme le dit le livre de la nature. Et il est énorme et très fort. On dit que ses membres sont disposés de la manière suivante. Dans sa partie antérieure, il présente, pour ainsi dire, l'apparence d'un soldat armé, avec sa tête coiffée d'un casque qui semble de métal, mais qui est en peau très dure, solide et rugueuse. À son cou pend un long, large et grand bouclier, creux à l'intérieur, avec lequel le monstre peut se protéger des coups, comme un combattant. Et un peu plus loin, le bouclier est de forme triangulaire, si résistant par sa dureté et sa solidité, qu'une arme peut à peine y pénétrer. Il a aussi des bras très forts, mais à la place des mains, il possède une sorte de membre fourchu, avec lequel il assène des coups très violents. Et encore un peu plus loin, on rencontre ces monstres en mer britannique. Qu'on conclure à la fois de cette lecture et de l'observation des deux miniatures. Alors d'abord, que Thomas situe significativement le Zithyron in mare britannico. Ensuite, qu'il lui reconnaît l'allure générale je cite, enfin, je répète, d'un soldat armé avec sa tête coiffée d'un casque, tout en lui conférant des bras très forts, terminés par une sorte de membre fourchu à la place des mains. On a donc affaire à une anthropomorphisation partielle. Alors, le premier miniaturiste a travaillé un peu dans le même esprit, puisque chez lui aussi, on reste dans le domaine de l'allusif et du métonymique. De fait, aucun élément ne laisse supposer qu'il s'agit vraiment d'un homme-poisson, si ce n'est le casque et le bouclier. L'allure réaliste de ceci confère néanmoins une certaine ambiguïté, et même une ambiguïté certaine, à la nature de ce monstre marin. C'est également le cas du zithyron peint dans l'autre manuscrit. Mais là, l'anthropomorphisation est nettement plus poussée, puisqu'il a été peint avec un visage humain, mais toujours sans bras. Dans la miniature d'un autre exemplaire de la traduction flamande du De Natura Rerum, copié vers 1350, ainsi que dans l'illustration correspondante de l'Hortus Sanitatis déjà vue, le zithyron est cette fois figuré avec un buste humain et est armé. Et c'est sous cet aspect que les chevaliers marins apparaissent dans les autres formes d'art et sont généralement évoqués en littérature. C'est en Hainaut, Flandre, Brabant et des deux côtés de la Manche qu'il en est le plus souvent question, à la partir de la fin du XIIIe siècle. Par ailleurs, une chronique bretonne, dont l'auteur était lié au milieu ennuyé, fait notamment état de la découverte en 1308 d'un, je cite, d'un homme marin armé comme un chevalier près des côtes hollandaises. Par ailleurs, dans le Perceforêt, roman achevé en 1344, qu'on doit à un clerc vraisemblablement originaire du Hainaut, les chevaliers de mer, localisés sur une île de Grande-Bretagne, sont légions et extrêmement valorisés, puisqu'ils sont non seulement associés à la naissance de l'institution du tournoi, mais aussi à l'enseignement des vertus chevaleresques. Dans quelques cas, ils furent aussi associés à l'aventure sous-marine d'Alexandre, représentée ici dans un manuscrit vraisemblablement anglais du début du XIVe siècle. Et on les retrouve aussi dans le décor de plusieurs miséricordes de Stahl, notamment Brabanson, non loin du lieu où naquit Thomas de Quentin-Pré. La valorisation dont ils furent l'objet explique par ailleurs le rôle qu'ils jouèrent dans l'héraldique. Ainsi, ils figurent sur le blason de plusieurs familles de Flandre, des Pays-Bas et d'Allemagne. Et ils apparaissent parfois comme tenants d'armoiries ou en lien avec elles, comme ici sur le manteau de cheminée du château d'Écossine-Lalin en Hainaut. Enfin, ils sont représentés sur plusieurs sceaux de cire de grandes familles de Flandre à la fin du XVe siècle. Chevalier marin et sirène eurent même l'honneur d'intervenir dans au moins deux mascarades liées à la cour de Bourgogne. La première, en 1440, lors d'une des entrées de Philippe le Bon à Bruges. La seconde, en la même ville, à l'occasion du mariage de Charles le Téméraire et de Marguerite d'York, 8 ans plus tard. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire la description de cette dernière, sur fond, au-dessus d'un détail du Jardin des délices de Jérôme Bosch, et en dessous d'un détail de l'illustration du livre d'heures de Saint-Paul de Léon dans le Finistère, soit respectivement une représentation de la fin du XVe siècle et une autre du début du siècle suivant. Donc, je vous lis la description. C'est ainsi que le lundi 11 juillet 1468, à la fin du repas, apparut une grande baleine de bois et de toile peinte. Après un tour de sol, l'animal ouvrit la gueule. Deux sirènes en jaillirent, tenant peigne et miroir, et se mirent à chanter. Au son de cette musique, 12 chevaliers de mer sortirent également du ventre de la baleine. Ils étaient habillés et couverts d'écailles, à la manière de poissons que la baleine aurait mangé. Au son d'un tambourin émanant de l'animal, les sirènes cessèrent de chanter et commencèrent à danser avec les chevaliers marins. Ils étaient 12 et les sirènes 2. Une jalousie amoureuse opposa les chevaliers qui, armés d'un bouclier et d'un bâton, se battirent à la manière d'un tournoi pendant assez longtemps. Ensuite, des géants les chassèrent et ils regagnèrent tous le ventre de la baleine avec les sirènes, marquant la fin du spectacle. J'aurais vraiment aimé voir ça. De son côté, le Monacus Maris, donc le moine de mer, qu'on aperçoit ici sur un chapiteau roman légendé de Rhénanie, n'eut guère l'honneur d'être associé à de telles manifestations. Et il fut même perçu très négativement, comme on va le voir. Mais il n'est pas absolument certain que ce fut ab origine. En tout cas, l'anglais Alexandre Neckam, qui en fait mention vers 1200 dans son De Naturis Rerum, ne fait aucun commentaire en ce sens et l'évoque en même temps que le chevalier marin. Quelques années plus tard, son compatriote Gervais de Tilbury ne fera pas autre chose et situera notamment les deux espèces in mare britannico. Par contre, Godefroy de Viterbe, on est vraiment en plein XIIe siècle, donc chroniqueur germanique, qui fut le secrétaire de l'empereur Frédéric Barberousse, faisait déjà état de sa dangerosité, comme on va le voir. Il le décrivait aussi comme encapuchonné, ce qui fait écho à notre représentation sur pierre, où il apparaît comme tonsuré et portant un vêtement à large capuche. Voilà la traduction du passage, la traduction plus ou moins bonne, donc du passage du Panthéon où il en est question, et qui se situe dans le cadre d'un commentaire relatif à la création des animaux, hein, les 7 jours de la création, et plus particulièrement de la faune marine. La mer mêlant ses rivages au flot de l'océan vomit et reçoit comme un flux menstruel des poissons étonnants. Là où la mer s'en va, assez souvent et revient, le marin prend parfois des bœufs de mer. Là-bas se développe un poisson moine ou en forme de moine. Il porte à travers les profondeurs de la mer une tête encapuchonnée. Il a un soulier exactement conforme et une ample capuche, si bien disposée qu'il n'y en aurait pas de plus adapté. Et sa langue est assez bavarde, autant qu'une voix humaine. Son front, ses mains et son visage sont humains. Pendant qu'il fait des sauts soutenus par les directives des hommes, si je traduis bien, j'ai le texte avec moi, je vous montrerai tout à l'heure. Donc pendant qu'il fait des sauts, ça c'est certain, donc il répond par un mugissement et déclenche des tempêtes. Un peu plus loin, assez souvent, il provoque par son art le naufrage des petits navires. Le poisson moine chante alors comme un coq avec une voix sonore. Il y a un poisson chien et un poisson ours sur la rive de cette mer. Bref, un moine marin qui finalement ne tient du moine que peu de choses, si ce n'est qu'il en présente la forme, hein, Monacus se forma monastica. Pour le reste, il est bavard, il chante comme un coq et déclenche des tempêtes. seuls éléments à son actif, son ample capuche, si bien adapté, hein, et son soulier exactement conforme, même si on se demande à quoi. Alors, comme on pouvait s'en douter, ce ne fut pas ce détail incongru qui passa à la postérité, mais bien la présence d'une sorte de tonsure au niveau de la tête. C'est d'ailleurs cette particularité qui serait à l'origine de l'appellation de moine marin, comme on le lit chez Thomas et chez Albert le Grand, qui les situe significativement dans la mer de Bretagne. Cette particularité est également relevé chez Conrad von Megenberg et dans l'Hortus Sanitatis, où on en reconnaît un face à la licorne de mer dans l'illustration des notices correspondantes. Pour ce qui est du texte, il reprend celui de Thomas, à peine résumé, et débute ainsi. Alors je lis évidemment le passage dans la traduction faite par les organisatrices de notre beau colloque. Alors, d'après le Liber de Natura Rerum, donc sous-entendu, donc, les moines de mer sont ainsi appelés parce qu'ils ont la tête d'un moine qui vient d'être rasé. Sur le haut du crâne, ils ont une tonsure blanche et un cercle qui fait comme des cheveux au-dessus de la zone des oreilles. La face du moine de mer, cependant, n'est pas tout à fait semblable à celle de l'homme, parce qu'il a un nez de poisson et une bouche attachée au nez. Pour le reste, dans ses parties inférieures, il a l'aspect d'un poisson. Donc, on notera en passant que tant sur le chapiteau que sur la miniature et la gravure, notre moine apparaît très anthropomorphisé en ce qui concerne le visage et même parfois le torse, alors que ce n'est pas du tout le cas dans le texte qui se poursuit ainsi. Ce monstre aime à attirer les hommes qui se promènent sur le rivage et il joue à la surface des eaux devant eux. Or, s'il voit quelqu'un s'approcher émerveillé, il se rapproche lui aussi. Et si l'occasion lui en est fournie, il l'attrape, plonge dans les profondeurs et se repaît ainsi de sa chair. Donc, de tempestère, notre moine marin est donc devenu un prédateur anthropophage, ce qui n'est pas vraiment mieux. Même si chez Bollon et Rondelet, qui le situent en Norvège, il n'est nullement question de sa méchanceté, pas plus d'ailleurs que chez Jacopus Sluperius, comme on l'a vu tout au début. Quoi qu'il en soit, ici la référence ecclésiastique, hein, moine de mer, hein, n'a pas joué le rôle positif. À l'inverse de ce qui s'est passé avec les chevaliers marins, très valorisés par leur noble cousinage, et présentés comme parangons des vertus chevaleresque. Il n'en reste pas moins que la mise en perspective des uns et des autres est riche d'enseignements. D'une part, elle nous convainc qu'on est passé du mot à la chose sur base d'une ressemblance physique plus ou moins frappante. Et d'autre part, elle nous invite à nous intéresser à un concept cosmologique, celui de monde marin symétrique du monde terrestre, qui a manifestement joué un rôle important pour notre propos. De fait, nos chevaliers et moines marins n'auraient sans doute jamais pu être conçus et figurés comme tels s'ils n'avaient été en quelque sorte portés par cette croyance diffuse, qui explique également l'abondance de contreparties marines d'animaux terrestres, dont ils sont par ailleurs indissociables. C'est que cette idée avait fortement imprégné les esprits du nord de l'Europe, avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir concernant l'imaginaire subaquatique. Ainsi, Gervais de Tilbury entamait son chapitre sur les dauphins dans les Otia Imperialia sur cette affirmation sans appel. Je le cite. Que tous ceux qui ont sondé les ondes marines ou exploré le fond même de la mer entendent et sachent bien ceci. Il n'y a pas d'être vivant habitant sur notre terre dont on ne puisse observer l'image ressemblante chez les poissons de la mer d'Angleterre, du nombril à la tête. Et peu après, dans son encyclopédie, Thomas de Quantimpré revenait longuement sur le sujet dans l'introduction au chapitre consacré aux monstres marins. Je vous lis l'entièreté donc, de la traduction du passage, car il est intéressant dans son ensemble pour notre propos. À part les sept, il y a cependant d'autres monstres qui, par leur diversité ou leur grandeur, montrent que Dieu est admirable. En effet, la terre n'a pas d'animal quadrupède, que la mer n'en possède un partiellement semblable. Mais la mer montre aussi quantité de poissons ressemblant aux oiseaux et aux serpents. Et il ne faut pas croire, comme certains l'ont pensé, que les monstres de ce genre ont été engendrés par des accouplements adultérins. Dieu les a tous créés dès l'origine. Parmi elles, les uns rampent, les autres courent, les autres sautent, d'autres encore volent, mais tous savent nager. La plupart d'entre eux ont des écailles, les autres des peaux très fortes, presque tous ont des nageoires et des queues de poisson, ou s'appuient sur des membres comme des bras. Quelques-uns respirent dans l'air comme des animaux terrestres, mais la plupart, comme les poissons, vivent dans l'eau d'une respiration lente. Soit des monstres marins bien réels, créés par Dieu. En fait, l'affirmation selon laquelle la terre n'a pas d'animal quadrupède que la mer n'en possède un partiellement semblable était librement inspirée de Pline. De même que l'idée du monde marin parallèle du monde terrestre remontait à l'Antiquité. Toutefois, en s'appropriant ce concept, le Moyen-Âge lui imprima sa marque dans le cadre d'une osmose culturelle tout à fait étonnante. Pour s'en faire une idée, voyons maintenant rapidement en quoi consistait cet héritage et ce qu'il en advint. À vrai dire, cette idée de monde parallèle semble n'avoir jamais fait l'objet d'une théorisation, pas plus au Moyen-Âge que dans l'Antiquité. Dans les deux cas, il s'agit plutôt d'une croyance diffuse. Il n'en reste pas moins qu'elle sous-tendait déjà l'existence de plusieurs contreparties marines d'animaux terrestres localisées aux alentours de l'île de Taproban, évoqué chez Onésicrite, Mégasthène, Strabon et Pline, avant de passer chez Hélien. Par ailleurs, on l'a dit, c'est à Pline que l'on doit l'affirmation présentée comme un topos, selon laquelle on trouve beaucoup d'êtres monstrueux dans la mer, car, je le cite, les semences et les embryons s'y confondent et s'agglomèrent de multiples façons, roulés soit par le vent, soit par la vague. Ainsi se vérifie l'opinion commune que tous les êtres naissants dans une partie de la nature se trouvent aussi dans la mer, sans compter beaucoup d'autres qui n'existent nulle part ailleurs. Alors on serait tenté à cet égard d'interpréter ces hybrides de cheval, de léopard, de tigre et de taureau, magnifiquement figurés sur ces mosaïques romaines, à la lumière de cette affirmation. Mais il vaut mieux s'en garder, eu égard notamment au fait que dans d'autres occurrences, certains bipèdes marins possèdent des ailes en plus de leur queue de poisson. On aurait plutôt affaire à des motifs appartenant à un répertoire ornemental utilisé dans n'importe quel contexte, notamment funéraire, ce qui n'est toutefois pas le cas ici. En effet, donc sur la mosaïque de droite, ils entourent le buste d'Okeanos et symbolisent très vraisemblablement la diversité de la faune marine. Sur celle de gauche, on se trouve dans le cadre d'un thiasme marin. N'empêche, ce genre de scène ne pouvait qu'accréditer cette croyance auprès de personnes étrangères à la culture romaine, ce qui ne manqua sans doute pas de se produire. C'est même en quelque sorte confirmé par un passage du Liber Monstrorum, opuscule écrit sans doute entre 650 et 750 dans le monde insulaire. En effet, dans un petit chapitre évoquant précisément des contreparties marines d'animaux terrestres dans la ligne de plume, il y a une référence quasi explicite à une mosaïque. Une mosaïque faite à la manière grecque, et per quandam picturam graecui operis. Quoi qu'il en soit, c'est à ce petit traité de tératologie non moralisée qu'on doit leur première mention médiévale. Et que la rédaction du Liber Monstrorum soit traditionnellement attribuée au milieu érudit anglo-saxon, voire irlandais, n'est pas un hasard. Même si nos monstres y sont localisés in mare Tirreno, dans la mer tyrrhénienne, mais plus pour très longtemps. En effet, dans les textes ultérieurs, la plupart des contreparties marines seront localisées en mer Britannique ou dans la mer de Bretagne, en d'autres termes dans le Nord. Un peu comme si l'héritage antique et méditerranéen transmis par Pline et Hélien avait fécondé une image germano-celtique tout prêt à le recevoir et à l'enrichir, pour reprendre une phrase que j'ai déjà placée dans plusieurs articles, mais je ne sais pas le dire mieux. Et c'est à cela que je voulais en venir à ce stade. En effet, tout porte à croire que ce qui était le plus généralement de l'ordre du métonymique fut pris au pied de la lettre, dans une culture dont l'imaginaire était dominé par l'élément marin et dont la cosmologie était bâtie sur une homologie générale. Rien d'étonnant dès lors qu'on ait cru que tout ce qui se trouvait sur Terre avait son analogue dans la mer. C'est particulièrement évident dans la culture irlandaise d'origine celtique, dans laquelle il est question de villes et de monastères subaquatiques, sans parler des bœufs qui sortent de la mer et la regagnent le soir, afin d'aider entre-temps aux travaux agricoles. Ce sont des vides Saint-Médoc et Saint-Cronan. Mais pas uniquement, donc il n'y a pas uniquement dans la culture celtique, donc pas uniquement. L'imaginaire germanique est lui aussi riche en Meerwunder, notamment aquatique. Bref, dans ce contexte, il allait presque de soi que parallèlement aux contreparties marines d'animaux terrestres, on conçoive également des contreparties marines d'êtres humains ou de catégories d'êtres humains, comme les moines, les chevaliers de mer ou bien encore les rois. À cet égard, on se rappellera que chez Godefroy de Viterbe, l'évocation des poissons moines était associée à celle des poissons bœufs, des poissons chiens et des poissons ours. Et que dans certains bestiaires anglais, le frontispice du chapitre consacré aux monstres marins ou aux poissons comporte à la fois des contreparties marines d'animaux terrestres et des monstres marins anthropomorphes, comme c'est le cas ici, donc à gauche. De même, dans les Otia Imperialia de Gervais de Tilbury, moines marins, poissons chevaliers et rois poissons sont cités en même temps que d'autres contreparties marines d'animaux terrestres. Je le cite, donc Gervais. Ici, le poisson moine se revêt d'écailles monacales jusqu'au milieu de son ventre. Là, le poisson roi porte couronne. Là, le chevalier tout armé chevauche sa monture. Voici le chien qui retrousse ses babines. Et voilà le porc, etc. Par ailleurs, un peu plus de 2 siècles plus tard, c'est dans les mers septentrionales qu'Antoine de La Salle, qui était le secrétaire de René d'Anjou, donc situait une faune mixte du même genre. Preuve, s'il en fallait, que la croyance en un monde marin symétrique du monde terrestre s'était définitivement déplacée vers le nord. Je vous lis le passage correspondant que j'ai mis en français semi-moderne. On y voit poissons monstrueux, qui sont très merveilleux, car en la partie de devant, ils ont figure de chevaux, les autres de bœufs, les autres de cerfs, les autres de chèvres, les autres de chiens. Et les autres semblances d'hommes et de femmes, de la ceinture en sus et de la ceinture en jus, ont écailles de poissons. Là sont les baleines de 100 coudées de long, etc. Alors, à cette faune foisonnante, il ne manquait plus que l'évêque de mer, dont Guillaume Rondelet fit état le premier en 1554. On le voit ici, à gauche, dans l'illustration de son histoire des poissons, et à droite, dans l'ouvrage des Acités de Sulpérus. Et il en est encore question chez Conrad de Gessner, Aldrovandi et Ambroise Paré, je pense. En fait, je n'ai pas vraiment vérifié, mais c'est ce que j'ai lu. Mais cette étrange créature ne sortit jamais du cercle restreint de ses savants et fut le dernier en son genre. Ce qui, somme toute, n'a rien d'étonnant. En effet, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin dans le domaine des contreparties marines d'êtres humains considéré par catégorie, dirais-je, professionnelle, hein, enfin, si je puis dire. Il n'en reste pas moins que l'apparition d'évêques marins dans les traités scientifiques du XVIe siècle suggère implicitement que l'idée d'un monde marin parallèle du monde terrestre subsista bien au-delà de la fin du Moyen Âge. Pour le reste, on notera encore avec intérêt que ce n'est pas n'importe quelle catégorie professionnelle, encore une fois entre guillemets, hein, qui donna lieu à des contreparties marines d'êtres humains. Je ne pense pas tant à l'évêque, qui est une création récente et se présente essentiellement comme une sorte de construction intellectuelle, qu'au moine, chevalier et roi de la mer. Et j'ai des réticences à y voir une intention parodique ou satirique. Sans doute que dans le cas des moines et des chevaliers, l'aspect métonymique est prépondérant. Pour ce qui est du roi poisson, dont on a vu un exemple tout de suite, peut-être son personnage entrait-il en résonance avec d'anciennes croyances encore vivaces ? Point d'interrogation. En tout cas, l'histoire de la sirène conforte cette hypothèse. Dans l'Antiquité, les sirènes étaient imaginées comme des femmes oiseaux, de caractère ambivalent, à la fois craintes comme esprit incube et honorées comme divinité psychopompe, en dehors du contexte odysséen, bien sûr. Il n'en reste pas moins que leur métamorphose en femme poisson, qui connaîtra la fortune que l'on sait, est attesté dans le Liber Monstrorum, rédigé sans doute en milieu insulaire, un peu avant ou un peu après 700, comme on l'a déjà rappelé. On y lit en effet au début du chapitre 8, hein, je cite le passage, « Sirène, jeune fille des mers, qui trompe les navigateurs par leur beauté et leur chant très doux. De la tête à l'ombilic, elles ont un corps de jeune fille. Elles ont cependant des queues de poisson couvertes d'écailles avec lesquelles elles restent dans les eaux. » C'est une telle créature qui a été figurée dans le livre de Kells et dans le Psautier de Charlemagne, copié dans l'abbaye de Saint-Riquier, dans la Somme, donc proche de la Manche, et constituée en entité administrative de l'Empire. En tout état de cause, L'initiale dont elle dessine les contours de son souple corps est de type insulaire. Peut-on pour autant y reconnaître une sirène? Rien ne permet en tout cas de l'affirmer, en l'absence d'inscription ou de contexte signifiant. Il pourrait très bien s'agir aussi de la représentation d'une simple ondine, nombreuse dans les cultures du Nord, et parfois imaginée avec une queue de poisson. Par contre, ce qui semble certain, c'est que les sirènes sont devenues pisciformes après avoir été assimilées à celles qui appartenaient à cette dernière catégorie, donc les ondines marines, essentiellement sur base d'un habitat marin commun, hein, sirène qui habitait sur une île, hein, et d'une voix mélodieuse. En tout cas, les termes merruif, mermaids, mermaids et leurs variantes ont à plusieurs reprises été glosés par le mot sirénèse. C'est ainsi que la sirène devint un monstre marin des mers septentrionales après être né ornithomorphe en Méditerranée. Il faut par ailleurs garder à l'esprit qu'en fusionnant avec ce type d'ondine, la sirène accéda à une réalité mythique nouvelle, celle de la jeune fille des mers, dont l'existence n'était manifestement pas mise en doute en milieu germano-celtique et dont le passé n'avait rien de commun avec le sien. En effet, ce que la littérature savante laisse filtrer à leurs propos laisse penser qu'avant leur diabolisation par l'Église, ces mermaids et autres mermines étaient souvent présentées comme généreuses et bienveillantes envers les hommes, ainsi que mères attentionnées. Tout ce que la sirène n'était pas et continua à ne pas être dans le monde des lettrés, dans la littérature savante. Mais il semble bien qu'en dehors des sphères cultivées, les choses ne se soient pas exactement passées ainsi. Ainsi, tout semble indiquer que ces nouvelles sirènes ont bel et bien hérité de la sollicitude de leurs consœurs en s'assimilant petit à petit à elles, comme d'authentiques génies des eaux. En tout cas, à partir de la fin du XIe siècle, et en rupture totale avec la tradition, certains témoignages prêtent aux sirènes une attitude bienveillante envers les hommes. On y reviendra tout de suite. Parallèlement, on trouve dans l'art quelques représentations qui semblent aller dans le même sens, comme cette sirène offrant des poissons à des pêcheurs installés dans une barque sculptée à un cuneau. Il est vrai que l'on interprète parfois cette scène symboliquement, comme une mise en garde contre la séduction fatale de la femme assimilée à une sirène. Je l'ai fait moi-même dans ma thèse, donc je sais de quoi je parle. Mais avec le recul, bon, je me dis que ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut l'interpréter. Enfin, en effet, l'atmosphère paisible de l'évocation, jointe au fait que la littérature du temps contient encore d'autres allusions à des sirènes secourables et généreuses, suggère plutôt d'y voir l'expression spontanée d'une croyance encore vivace. Ainsi, Saint Bernard de Clairvaux, qu'on ne peut quand même pas accuser d'avoir été crédule, et a fortiori de les avoir eues en sympathie, les sirènes, affirmait que les sirènes prévenaient les pêcheurs de l'arrivée de la tempête. Attitude qu'on prêtait d'ailleurs aussi aux dauphins. Et on lit la même chose dans un étonnant passage de la Geste de Saint Servet de Tongres, écrite au XIe siècle en Germanie, dans le diocèse de Liège, très vraisemblablement, au sein duquel les sirènes apparaissent en outre compatissantes au malheur des humains. Et cette attitude est même présentée comme un topos. Je lis le passage en question en traduction. À quoi bon raconter, puisqu'on le fait souvent, que des poissons à moitié femmes et des femmes à moitié poissons, les sirènes, avaient prédit la tempête aux marins. Combien elles avaient forme humaine. À quoi bon raconter qu'elles avaient spontanément dénudé les marins dans les flots, qu'elles avaient porté à la vue de ceux qui naviguaient les hommes morts, ballottés de tous les côtés, soutenus par les bras, et qu'elles avaient fait retentir le ciel et la mer de leur voix doucement plaincive, qui résonne fort. Et il y a encore d'autres allusions à cette sollicitude dans des textes postérieurs. Ainsi, dans la bataille Locrifère, Renoir est sauvé de la noyade par la sirène, qu'il avait auparavant capturée et relâchée à sa demande, à la condition, toutefois, de lui venir en aide en cas de besoin. Ça, c'est sans doute dans une interpolation du XIIIe siècle. Quant au Tristan de Nanteuil, il en est au XIVe, il met en scène une sirène qui, lors d'un naufrage, sauve un enfant en l'allaitant pendant 14 jours de son propre lait. C'est que parallèlement, les sirènes étaient devenues elles-mêmes des mères attentionnées, décrites, comme chez Thomas, et parfois représentées comme telles, comme on le voit à droite. Bref, des mermaids et autres jeunes femmes de mer accomplies, comme celle qui est sculptée à Bâle, donc à droite, et dont le petit joue avec un porcus marinus. Il n'en reste pas moins que des scènes telles que celle-ci rappellent que parallèlement, elles étaient généralement perçues négativement, à la fois comme ondine malfaisante et, barre ou, comme symbole de la dangereuse séduction féminine. Mais bonnes ou mauvaises, les sirènes n'en étaient pas moins devenues des monstres anthropomorphes, des mers du Nord. Des monstres anthropomorphes à queue de poisson, à l'instar de certaines ondines et des chevaliers, des moines et des évêques de mer. À cet égard, on ne peut ignorer que l'on représenta parfois moines marins et zithyrones sous la forme de quadrupèdes androcéphales avec une mini queue de poisson. Donc, même si ce fut exceptionnel. Alors, c'est dans le Buch der Natur de Conrad von Meggenberg, imprimé à Augsbourg en 1475, que le moine marin apparaît le plus anciennement ainsi. Pour une raison difficilement explicable, à vrai dire. Et c'est sous cette même forme qu'il se présente dans l'exemplaire tardif du De Natura Rerum déjà cité, où il était à l'évidence copié sur l'incunable. Un peu plus loin, le zithyron y est également affublé de quatre pattes, dont vous voyez là, deuxième vignette, sans qu'on puisse cette fois se référer à un quelconque prototype. Enfin, je pense, je n'ai pas vraiment approfondi, mais je pense bien. Et l'effet est d'autant plus déconcertant quand on se remémore le rôle essentiel que ce monstre marin a joué dans la formation du concept de chevalier marin. Alors, on le voit à quatre pattes, vraiment curieux. Quoi qu'il en soit, ces fantaisies iconographiques rappellent qu'au Moyen-Âge, les illustrations de livres sont parfois très éloignées du texte qu'elles sont censées mettre en image. Soit que le dessinateur ait mal compris son contenu, ou qu'il l'ait confondu avec un autre, soit qu'il n'en ait pas tenu compte par illettrisme ou par mégarde, et qu'à ce titre, il ait spontanément donné sa propre conception des choses ou des êtres qui y étaient décrits. Et dans ce cas, le contenu des images peut être révélateur, comme le rappelle un hiatus dans un chapitre de Physiologus et son illustration qui nous intéresse directement, même s'il s'agit d'un exemple très ancien. Il est en fait question ici de celui qui se trouve dans le Physiologus de Berne, célèbre manuscrit carolingien, dans lequel la sirène est décrite comme une femme oiseau et figurée comme une femme poisson, comme vous le voyez vous-même. Ici, on ne peut guère invoquer une méprise ou une confusion. En effet, dans ce cas, il est manifeste que l'illustrateur, moins nourri de lettres classiques que le copiste, a tout simplement conféré à la sirène la forme qu'elle revêtait dans la culture orale et populaire qui lui était familière. En gardant cet exemple à l'esprit, on pourrait peut-être expliquer, d'une manière approchante, la discordance entre texte et image dans plusieurs grands traités d'histoire naturelle de la fin du Moyen-Âge, dans lesquels la femme, et surtout l'homme-poisson, ont fini par devenir une sorte de motif passe-partout. C'est ainsi que dans l'Hortus Sanitatis, outre le moine de mer, le zithyrone, la sirène et la scylla, pour qui cela se justifiait au moins en partie, la baleine, le dauphin, la néréide et le plataniste, à la fois de fleuve et de mer, donc apparaissent sous cette forme, alors que le texte les présente sous une toute autre forme, une toute autre morphologie. Sans vouloir inférer, évidemment, de ce que ces créatures aient pu avoir une existence légendaire sous cette apparence, hein, sûrement pas, on peut quand même se demander si celle d'Ondin qui leur a été systématiquement prêtée n'est pas le symptôme d'une croyance généralisée dans les génies des eaux, particulièrement palpable dans les romans germaniques et même français du Moyen-Âge. On ne peut en effet nier l'influence de la réalité sur le genre romanesque, même si elle est esthétisée. Ce qui se serait ainsi passé, c'est qu'en l'absence de traits morphologiques vraiment caractérisés, le dessinateur aurait en quelque sorte utilisé une silhouette prête à l'emploi, en correspondance avec son propre imaginaire. À noter aussi que quasi toutes les créatures concernées possèdent l'une ou l'autre caractéristique en partage avec l'humanité. Le mode de gestation pour la baleine et le dauphin, ainsi que le sens de la famille, la compassion, l'émotivité pour le dauphin aussi. La voix et en partie l'apparence pour la néréide, ce qui a pu faciliter l'anthropomorphisation. Enfin, ceci n'est bien sûr qu'une hypothèse tout à fait personnelle. Quoi qu'il en soit, dans la littérature encyclopédique et didactique, tant dans la littérature encyclopédique et didactique que la littérature de divertissement, et même dans les vies de saints, même les vies de saints, font état de plusieurs monstres marins anthropomorphes dans les mers septentrionales. Certains semblent s'y trouver depuis toujours, d'autres s'y sont manifestement acclimatés plus tard. Mais les uns et les autres, surtout les chevaliers marins, et encore davantage les sirènes, ont marqué une bonne partie de l'Europe du Nord par l'image que le genre romanesque a véhiculé d'eux. Pour les premiers, celle de chevaliers modèles, digne de parrainer une lignée noble. Pour les secondes, celle d'Ondine, dont l'aspect positif a même fini par triompher, la petite sirène d'Andersen en faisant foi. Quant à l'ensemble de ces hybrides d'hommes et de poissons, ancrés à des degrés divers dans l'imaginaire médiéval, ils apparaissent dans l'art figuré comme autant d'échos à une réalité longtemps occultée par l'Église, celle d'un monde peuplé de bons et de mauvais génies, dont ceux des mers du Nord de l'Europe ne furent ni les moins attachants, ni les moins effrayants, ni les moins intéressants à étudier. Je vous remercie.